Chapitre 13. Le dragon de vérité. Des troupes des Sidduchés déferlèrent sur Lac Bleu et embarquèrent pour la rive opposée et le royaume des montagnes au moment même où les pirates rouges remontaient l'Avin en direction de Guédenégos. La ville n'avait jamais été fortifiée, mais bien que l'arrivée des navires eût été annoncée à l'avance par des coursiers, la nouvelle ne suscita, dans l'ensemble, que du dédain. Quelle menace pouvait représenter 12 bateaux barbares pour une grande cité comme Guédenégos? La garde fut alertée, certains vendeurs prirent des dispositions pour faire déménager leurs marchandises des entrepôts situés au bord des quais, mais on pensait généralement que, si les pirates parvenaient jusqu'à Guédenégos, les archers n'auraient aucun mal à les abattre avant qu'ils provoquent de trop graves dégâts, et le consensus affirmait qu'ils venaient proposer un traité au roi des Sidduchés. Il y eut de grandes discussions sur l'étendue de territoire côtier qu'ils exigeraient et l'intérêt éventuel de reprendre des relations commerciales avec les îles d'outre-mer elles-mêmes, sans parler de rouvrir le trafic sur la Serre. Il s'agit là d'un exemple de plus des fautes que l'on peut commettre quand on s'imagine connaître les désirs de l'ennemi et qu'on agit en fonction de ce postulat. Les habitants de Guédenégos prêtaient aux pirates rouges l'envie de prospérer qu'ils éprouvaient eux-mêmes. Or, dans le cas d'un tel adversaire, fonder une estimation sur cette motivation était une grave erreur. À mon sens, Kétriken n'accepta l'idée que Vérité devait mourir pour éveiller le dragon qu'au tout dernier moment, quand il lui fit ses adieux. Il l'embrassa avec précaution, les mains et les bras à l'écart d'elle, la tête penchée, afin qu'aucune tache argentée de son visage n'entre en contact avec celui de sa reine. Ce fut, malgré tout, un long baiser plein de tendresse et d'avidité. Elle s'agrippa à lui jusqu'à ce qu'il lui murmure quelques mots à l'oreille. Elle porta aussitôt les mains sur le bas de son ventre. « Comment pouvez-vous en être aussi certain ?» lui demanda-t-elle, tandis que des larmes commençaient à rouler sur ses joues. « Je le sais, » répondit-il d'un ton ferme. « Ma première tâche doit donc être de vous ramener à Jaamp. Vous devez rester en sécurité cette fois. »«
Ma place est à Castelserre, » protesta-t-elle.
Je pensais qu'il allait tenter de la raisonner, mais non. « Vous avez raison, c'est votre place. Je vous y transporterai. Adieu, mon amour. »
Kétriken ne répondit pas et le regarda s'éloigner avec une expression d'incompréhension absolue. Malgré les jours passés à nous acharner pour ce moment, la séparation parut brusquée, brouillonne. D'un pas raide, Caudron allait et venait près du dragon. Elle nous avait dit adieu d'un air distrait et elle faisait à présent les 100 pas devant la créature, essoufflée comme si elle venait d'achever une course. Sans cesse, elle touchait le dragon du bout des doigts ou de la paume, suscitant des teintes qui s'effaçaient lentement. Vérité fit preuve de plus d'attention envers nous.
« Occupez-vous de madame, » dit-il à Astérie. « Chantez fidèlement vos ballades, et ne permettez à personne de douter que l'enfant en elle est de moi. Je vous charge de cette vérité, ménestrel. »
« Je ferai de mon mieux, mon roi, » répondit-elle gravement. « Sur quoi ?» Elle alla prendre place auprès de Kétriken. Elle devait monter en compagnie de la reine sur la vaste échine du dragon et ne cessait d'essuyer ses paumes moites sur sa tunique et de vérifier les sangles qui maintenaient sur son dos le paquetage de sa harpe. Elle m'adressa un sourire anxieux. Ce furent nos seuls adieux et nous n'avions pas besoin de davantage. Ma décision de rester provoqua un certain émoi.
Les troupes de Royal approchent, d'instant en instant, me rappela encore une fois Vérité.
Dans ce cas, il faut vous dépêcher afin que je ne me trouve plus dans la carrière quand elles y parviendront, répondis-je. Il plissa le front.
Si j'aperçois des hommes de Royal sur la route, je veillerai à ce qu'ils n'aillent pas plus loin.
Ne faites pas courir de risques à ma reine. Pour demeurer sur place, j'avais pris pour excuse Œil de Nuit qui n'avait nulle envie de voler à dos de dragon,
Mais Vérité connaissait mes véritables motifs, j'en suis sûr. Je ne pensais pas rentrer en serre. J'avais déjà obtenu le serment d'Astérie de ne mentionner mon nom dans aucune chanson. Arracher cette promesse à une ménestrelle n'avait pas été tâche facile, mais j'avais insisté. Je ne voulais pas que Burick ni Molly me sachent encore en vie. En cela, cher compagnon, vous tenez le rôle d'oblat, m'avait chuchoté Kétriken. Elle ne pouvait m'adresser plus grand compliment. D'autre part, je savais que jamais un mot sur moi ne franchirait ses lèvres. Ce fut le fou qui posa le plus de difficultés. Nous le pressâmes tous d'accompagner la reine et la ménestrelle, mais il refusa obstinément.
Le prophète blanc restera avec le catalyseur, répéta-t-il.
Je pensais, quant à moi, en me gardant de l'exprimer, que c'était plutôt le fou qui voulait rester avec la femme au dragon. Il en était obsédé, et cela m'effrayait. L'arrivée des troupes l'obligerait à quitter la carrière. Je l'en avais prévenu en privé, et il avait acquiescé d'un air dégagé, mais en même temps distrait. Il devait avoir des projets intimes, mais nous n'avions plus le temps de tenter de le raisonner. Vint le moment où Vérité n'eut plus de motif de s'attarder. Nos derniers mots avaient été brefs, mais il n'y avait de toute façon guère à dire, me semblait-il. Tout ce qui s'était produit me paraissait désormais avoir été inévitable. Rétrospectivement, comme m'en avait averti le fou, je repérais nettement les lointains épisodes qui avaient permis à la prophétie de nous engager dans ce chenal. Nul n'était coupable, nul n'était innocent. Vérité m'adressa un hochement de tête, puis fit demi-tour et se dirigea vers le dragon. Soudain, il s'arrêta et se retourna en débouclant sa ceinture usagée, à laquelle pendait son épée. Puis il revint vers moi en enroulant la ceinture sur le fourreau. « Prends mon épée, » me dit-il brusquement. « Je n'en aurai plus besoin, et tu as apparemment perdu la dernière que je t'ai donnée. » Il s'interrompit, comme pris d'une arrière-pensée, puis dégaina vivement l'arme et passa une main argentée sur la lame qui retrouva aussitôt tout son brillant. D'un ton bourru, il reprit « Ce ne serait pas faire honneur au talent de Hod de te la remettre émoussée. Prends-en mieux soin que moi, Fitz. » Il rengaina l'épée et me la tendit. Son regard croisa le mien. « Et prends mieux soin de toi que je ne l'ai fait de moi-même. Je t'aimais, tu sais, » ajouta-t-il tout à coup. « Malgré tout ce que je t'ai fait subir, je t'aimais. » Je ne sus tout d'abord que répondre, puis, comme il posait les mains sur la tête du dragon, je lui dis « Je n'en ai jamais douté. Soyez toujours assurés que je vous aimais moi aussi. » Je n'oublierai jamais, je crois, ce dernier sourire qu'il m'adressa par-dessus son épaule. Ses yeux se tournèrent une ultime fois vers sa reine, puis il appuya fermement ses mains sur la tête ciselée, et il disparut, sans quitter Kétriken du regard. L'espace d'un instant, je sentis l'odeur de la peau de la reine, je me rappelais le goût de sa bouche, la douce tiédeur de ses épaules sous mes mains crispées, puis le vague souvenir s'évapora. Vérité s'évapora. Caudron s'évapora. Pour mon vif et mon art, ils cessèrent autant d'exister que s'ils avaient été forgisés. Pendant une effrayante fraction de seconde, je distinguais encore la dépouille vide de Vérité, puis elle s'écoula dans le dragon. Caudron, appuyé sur l'épaule de la créature, disparut plus vite que Vérité en se répandant sur les écailles sous la forme d'une onde turquoise et argent dont la couleur envahit la créature. Chacun retint son souffle, sauf Œil de Nuit qui se mit à gémir doucement. Plus rien ne bougeait sous le soleil d'été. J'entendis Kétriken étouffer un sanglot. Soudain, dans un grand bruit de vent, l'immense poitrail écailleux se gonfla d'air. Ses yeux, quand il les ouvrit, étaient noirs et brillants, des yeux de loin voyants, et je suis alors que Vérité nous regardait.
Le dragon leva sa grande tête au bout de son cou sinueux et s'étira comme un chat, incliné vers l'avant, en faisant rouler les muscles de ses épaules et en écartant les griffes. Lorsqu'il ramena vers lui ses pattes avant, ses serres entaillèrent profondément la pierre noire. Tout à coup, comme des voiles qui captent le vent, ses gigantesques ailes se déployèrent. Il les agita, tel un faucon qui arrange son plumage, et il les replia, lisses et luisantes contre ses flancs. Sa queue battit en soulevant un nuage de poussière de roche et de gravier, et sa grande tête se tourna vers nous, avec un regard qui exigeait que nous nous réjouissions autant que lui de sa nouvelle incarnation. Vérité, le dragon s'avança vers sa reine. Elle paraissait minuscule à côté de la tête qu'il courba vers elle, et je la vis entièrement reflétée dans un œil noir et brillant. Puis, il baissa une épaule pour l'inviter à monter. L'espace d'un instant, Ketriken eut une expression de pur chagrin, mais elle se ressaisit et redevint reine. Sans crainte, elle s'approcha du dragon à grands pas et posa la main sur l'épaule bleue et luisante de vérité. Les écailles étaient lisses et elle glissa un peu en grimpant sur son dos. Une fois là, elle s'avança de façon à se placer à califourchon sur le cou de l'immense créature. Astérie me lança un regard où se mêlaient la terreur et l'ébahissement, puis imita la reine à gestes plus lents. Elle s'installa derrière Ketriken et vérifia de nouveau que sa harpe était bien accrochée. La reine leva le bras en signe d'adieu et nous cria quelque chose, mais ses paroles se perdirent dans le vent soudain des ailes qui se déployèrent alors. Une fois, deux fois, trois fois, le dragon les fit battre comme pour mieux les éprouver. De la poussière et des gravillons me cinglèrent le visage, et Œil de Nuit se pressa contre ma jambe. Le dragon se ramassa, ses vastes ailes turquoises se remirent à battre, et il bondit soudain en l'air. Sans grâce, il prit son vol en ballottant un peu de droite et de gauche. J'aperçus Astérie qui s'agrippait de toutes ses forces à Ketriken. La reine, elle, penchée sur l'encolure, criait des encouragements au dragon. En quatre battements, ses ailes firent franchir à vérité la moitié de la longueur de la carrière. Il s'éleva dans les airs, se mit à tournoyer au-dessus des collines et des arbres alentour. Il alla inspecter la route d'art, puis ses ailes se mirent à battre régulièrement et l'emportèrent de plus en plus haut. Son ventre était d'un blanc bleuâtre comme celui d'un lézard. Je plissais les paupières pour le distinguer encore dans l'éclat du ciel d'été, puis, telle une flèche bleue et argent, il disparut en direction de Serre. Je restai les yeux levés longtemps après qu'il fût devenu invisible. Enfin, je relâchai ma respiration. Je tremblais. J'essuyai mes yeux avec ma manche et me tournai vers le fou. Il n'était plus là.
« Œil de Nuit, où est le fou ?»« Inutile de hurler, tu le sais aussi bien que moi. »
Il avait raison naturellement. Pourtant, je ne pouvais me défaire d'un sentiment d'urgence, et je descendis la rampe de pierre au pas de course, en laissant le socle désormais désert derrière moi.
« Fou !»
criai-je en arrivant à la tente. Je pris même le temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur dans l'espoir de le surprendre, en train d'empaqueter ce dont nous avions besoin. J'ignore pourquoi je m'étais raccroché à une telle illusion. Œil de Nuit, lui, ne m'avait pas attendu. Quand j'arrivais à la femme au dragon, il se trouvait déjà là, les yeux levés vers le fou. Je ralentis, et mon sentiment de danger s'effaça. Le fou était assis au bord du socle, les jambes dans le vide, la tête appuyée contre la patte du dragon derrière lui. De nouveaux éclats de pierre jonchaient l'estrade, résultat de son travail de la journée. Je m'approchai. Le fou leva les yeux vers le ciel avec une expression de regret. À côté du vert somptueux du dragon, il n'était plus blanc, mais or très pâle. Et ses cheveux de soie prenaient même un reflet fauve. Les yeux qu'il tourna vers moi étaient topazes délavés. Il secoua lentement la tête, mais ne dit rien avant que je m'accote au piédestal.
« J'espérais, » fit-il. « Je ne pouvais pas m'en empêcher, mais j'ai vu aujourd'hui ce qu'il faut donner au dragon pour qu'il s'envole. »
Il secoua encore la tête, plus vigoureusement.
et même si je possédais l'art, je n'ai pas assez à donner. Même s'il me consumait entièrement, cela ne suffirait pas.
Je ne répondis pas que je le savais déjà, ni même que je m'en doutais depuis le début. J'avais fini par retenir une leçon d'Astéry Chant d'Oiseau. Je le laissai jouir un moment du silence. Puis, Œil de Nuit et moi allons chercher deux gépas, dis-je. À notre retour, mieux vaudrait empaqueter rapidement nos affaires et nous en aller. Je n'ai pas vu Vérité se lancer à la poursuite de quiconque. Ça signifie peut-être que les troupes de Royal sont encore loin, mais je ne tiens pas à courir de risques. Il prit une profonde inspiration.
C'est judicieux. Il est temps que le fou fasse preuve de prudence. Quand tu reviendras, je t'aiderai à préparer les paquets.
Je m'aperçus alors que je tenais toujours à la main l'épée de Vérité dans son fourreau. Je dégainai ma propre épée et la remplaçai par celle que Odd avait forgée pour Vérité. Je n'étais pas accoutumé à son poids à ma hanche. Je tendis mon épée courte au fou. « Tu la veux ?» Il me jeta un regard intrigué.
« Pourquoi faire ?
Je suis fou, pas tueur. Je n'ai même jamais appris à manier ces choses-là. » Je le laissai dire adieu à la femme au dragon. Comme nous sortions de la carrière, nous nous dirigions vers les bois où nous avions installé les gépas, le loup leva le museau et huma l'air.
« Il ne reste rien de Carod qu'une mauvaise odeur, »
fit-il alors que nous passions non loin du cadavre. « Nous aurions peut-être dû l'enterrer, » dis-je en m'adressant autant à moi-même qu'à Œil de Nuit.
« À quoi bon enfouir de la viande déjà pourrie ?»
demanda-t-il étonné. Avec un frisson d'angoisse, je passai devant le pilier noir et découvris nos gépas égaillés sur une prairie en pente. Ils ne se laissèrent pas attraper aussi facilement que je l'espérais, et Œil de Nuit s'amusa longuement à les rameuter. Je choisis le gépa de tête, puis un deuxième, mais comme je les entraînais à ma suite, les autres décidèrent de nous emboîter le pas. J'aurais dû m'en douter, mais j'aurais préféré qu'ils retournent à l'état sauvage, car je ne goûtais guère l'idée de retourner à Jaamp avec six gépas sur mes talons. Soudain, alors que je les ramenais dans la carrière, après avoir laissé le pilier derrière moi, une pensée nouvelle me vint. Je n'étais pas obligé de retourner à Jaamp.
La chasse est aussi bonne ici qu'ailleurs.
N'oublie pas le fou. Nous ne pouvons pas penser qu'à nous.
Je ne le laisserai jamais mourir de faim.
Et cet hiver?
Cet hiver, eh bien, quelqu'un attaque.
Œil de Nuit ne m'attendit pas. Il me dépassa ventre à terre, tache grise dont les griffes crissaient sur la pierre noire de la carrière. Lâchant mes gépas, je courus derrière lui. Son flair m'indiqua une présence humaine. Quelques secondes plus tard, il identifia Ronce et se précipita vers lui. Le fou n'avait pas quitté la femme au dragon, et c'était là que Ronce l'avait trouvé. Il avait dû arriver sans bruit car le fou n'était pas facile à prendre par surprise, mais peut-être son obsession l'avait-elle trahi cette fois. Quoi qu'il en fût, Ronce avait porté le premier coup. Du sang ruisselait du bras du fou et dégouttait de ses doigts. Il en avait barbouillé le dragon en s'efforçant de l'escalader. Il était à présent accroché par une main à la mâchoire béante de la créature, les pieds fermement appuyés sur les épaules de la femme, et il tenait son poignard de sa main libre. Il observait Ronce d'un air sinistre et attendait la suite. Son adversaire irradiait un art bouillonnant de rage et de frustration. Ronce était grimpé sur le socle et cherchait désormais à monter sur le dragon lui-même, le bras tendu pour imposer au fou un contact d'art. Mais la pose et Kailis résistaient à ses tentatives. Seul un individu aussi agile que le fou pouvait réussir à se percher ainsi, juste hors d'atteinte de son assaillant. Exaspéré, Ronce tira l'épée et porta un coup de tranchant au pied du fou. La pointe manqua sa cible, mais de peu, et la lame sonna sur le dos de la femme. Le fou cria aussi fort que s'il avait été touché et tenta de grimper encore plus haut. Je vis sa main chasser sur son propre sang. Il se mit à glisser de plus en plus vite vers le bas tout en faisant des efforts frénétiques pour se retenir, et il atterrit durement derrière la femme sur le dos du dragon. Sa tête donna de biais contre l'épaule de la cavalière, et l'air à demi sonné, il s'accrocha aveuglément aux premières prises qu'il trouva.
Ronce leva l'épée pour un second coup capable de trancher la jambe du fou, mais silencieux comme la haine, le loup bondit sur le piédestal et le heurta dans le dos de tout son poids. Je courais encore vers eux quand je vis l'impact projeter violemment Ronce contre la femme au dragon. Il tomba à genoux au pied de la statue et son épée frappa une nouvelle fois la peau verte et luisante du dragon. Des ondes colorées s'enfuirent du point de contact entre le métal et la pierre, semblables à celles que provoque une pierre lancée dans un bassin. J'atteignis le socle à l'instant où Œil de Nuit baissait brusquement la tête, la gueule ouverte. Elle se referma sur Ronce, entre l'épaule et la nuque. L'homme se mit à hurler d'une voix incroyablement aiguë. Il laissa tomber son épée et leva les mains pour attraper les mâchoires rapaces du loup. Mais Œil de Nuit se mit à le secouer comme un lapin. Puis il prit appui des pattes avant sur le large dos de sa proie et assura sa prise. Certains événements se déroulèrent trop vite pour qu'on puisse les raconter de façon précise. Je sentis la présence de Guillot à l'instant même où le sang de Ronce, qui goûtait jusque-là, se mit à jaillir à gros bouillons. Œil de Nuit venait de trancher la grosse veine du cou, et la vie de Ronce s'écoulait en geyser écarlate.
« Pour toi, mon frère !» dit le loup au fou. « Cette proie est pour toi !»
Et il se remit à secouer sa victime. Le sang gicla comme une fontaine, tandis que Ronce se débattait sans savoir qu'il était déjà mort. Le fluide vital éclaboussa le dragon et dégoulina le long de son flanc pour se déverser dans les rigoles que le fou avait creusées autour de la queue et des pattes de la créature. Là, il entra en effervescence et se mit à fumer en rongeant la pierre comme l'eau chaude attaque un bloc de glace. Les écailles et les griffes arrière du dragon apparurent. Les détails de la queue en forme de fouet devinrent visibles et alors qu'Œil de Nuit rejetait enfin le corps sans vie de Ronce, les ailes du dragon se déployèrent. La femme au dragon s'éleva dans le ciel comme elle y tendait depuis si longtemps, apparemment sans effort, presque soulevée par la brise en emportant le fou avec elle. Je le vis se pencher en se raccrochant instinctivement à la taille souple de la femme. Le visage détourné de moi. Je distinguais les yeux sans expression et la bouche immobile de la cavalière. Peut-être ses yeux voyaient-ils, mais elle n'était pas plus libre que la queue ou les ailes de sa monture. Elle n'en constituait qu'un nouvel appendice auquel le fou s'agrippait tandis qu'il montait toujours davantage. Tout cela, j'en eus conscience sans pour autant rester figé, bouche bée. Ce furent des images fugitives perçues par l'intermédiaire du loup car j'avais tourné mon propre regard vers Guillot qui se précipitait dans ma direction. Une épée à la main, il courait avec aisance. Tout en pivotant, je tirai l'arme que m'avait donnée Vérité. Mouvement qui me prit plus de temps qu'avec l'épée courte à laquelle j'étais habitué. L'art de Guillot me frappa comme une vague puissante, à l'instant où la pointe de mon arme se dégageait du fourreau. Je reculais d'un pas en chancelant et dressais mes murailles. Il me connaissait bien. Le premier impact était composé non seulement de peur, mais aussi de souffrances particulières, préparées à ma seule intention. Je subis à nouveau le choc de mon nez cassé, je sentis à nouveau la brûlure de ma joue ouverte, même si le sang n'en ruissela pas sur ma poitrine comme la première fois. Le temps d'un battement de cœur éternel, je ne pus que maintenir dressé mes remparts contre cette douleur paralysante. Mon épée me sembla soudain de plomb, pesante. Sa pointe tomba vers la terre. Ce fut le trépas de Ronce qui me sauva. À l'instant où Œil de Nuit rejeta son corps sans vie, je vis la mort heurter Guillot, qui ferma involontairement les yeux sous l'impact. Le dernier membre de son clan avait disparu. Je le sentis brusquement diminuer, non seulement à cause de l'art de Ronce qui ne l'alimentait plus, mais aussi à cause du chagrin qui l'envahit soudain. Je cherchais dans mes souvenirs une image du cadavre pourrissant de Carod et la lui projetais pour l'achever. Il recula en chancelant. « Tu as échoué, Guillot !» lançai-je d'un ton mordant. Le dragon de vérité a déjà pris son vol, et il se dirige en ce moment même vers Serre. Sa reine l'accompagne, et elle porte en elle l'héritier du trône. Le roi légitime va retrouver sa couronne. Il va chasser les pirates rouges de ses côtes, et les troupes de royal des montagnes. Quoi que tu fasses maintenant, tu as perdu. Un étrange rictus me déforma la bouche. J'ai gagné! Les crocs nus, Œil de Nuit vint se placer près de moi. Le visage de Guillot se modifia, et ce fut tout à coup Royal qui me regarda par ses yeux. Il était aussi indifférent à la mort de Ronce qu'il le serait à celle de Guillot.
Je ne perçus chez lui nulle peine, seulement de la colère à voir sa puissance amoindrie.
« Peut-être, » dit-il par la voix de son chef de clan, « peut-être alors ne devrais-je m'occuper que de t'éliminer, bâtard, à n'importe quel prix !»
Il me sourit du sourire d'un homme qui sait à l'avance sur quelle face vont tomber les dés. L'espace d'un instant, l'incertitude et la peur me saisirent, et je renforçai mes murailles pour résister aux efforts insidieux de Guillot. « Crois-tu qu'un borgne, même armé, ait une chance contre mon épée et mon loup ?» Royal ? Ou bien comptes-tu disposer de sa vie sans plus y penser qu'à celle des autres membres du clan ?
Je posai la question avec le mince espoir de semer la discorde entre eux.
« Pourquoi pas ? »
répondit calmement Royal. « Imaginais-tu qu'à l'instar de mon imbécile de frère, je me contenterais d'un seul clan ?»
Une vague d'armes frappa avec la puissance d'une muraille d'eau. Je reculai en titubant, puis me ressaisis et me ruai sur Guillot. Il me fallait le tuer d'urgence. Royal avait le contrôle de son art et se désintéressait des dommages que subirait son homme de main s'il m'abattait d'une décharge d'art. Déjà, je le sentais qui rassemblait son énergie. Néanmoins, alors que je me jetais sur Guillot, les paroles de Royal me rongeaient le cœur. Un autre clan ? Borgne ou non, Guillot restait vif. On eût dit que son arme faisait partie de lui-même quand il détourna mon premier coup d'estoc. Un instant, je regrettais mon épée courte dont j'avais l'habitude, puis je chassais de mon esprit cette vaine pensée pour me concentrer sur la meilleure façon de franchir sa garde. Le loup nous contourna, le ventre à ras de terre, pour essayer de l'attaquer de dos.
« Trois nouveaux clans !» fit mon adversaire, le souffle court, tout en parant mon coup suivant. Je m'écartai hors de sa portée et tentai d'envelopper son épée. Mais il réagissait trop vite.
De jeunes et puissants artiseurs pour tailler des dragons à mon service.
Je sentis le vent de son coup de taille.
Des dragons fidèles qui m'obéiront au doigt et à l'œil pour abattre vérité dans une pluie de sang et d'écailles.
Il pivota et tenta d'embrocher œil de nuit. D'un bond éperdu, le loup s'éloigna de lui. Je me précipitai, mais l'épée de Guillot était déjà revenue pour contrer mon assaut. Il combattait avec une vivacité incroyable. Nouvel usage de l'art ou illusion qu'il m'imposait.
« Ils détruiront les pirates rouges pour moi, et ils ouvriront l'école des montagnes, dont le territoire m'appartiendra bientôt. Je deviendrai un héros, et alors nul ne s'opposera plus à moi. »
Sa lame heurta la mienne avec une force dont je ressentis le contre-coup jusque dans l'épaule. Ses propos aussi m'avaient porté un coup, car je les avais sentis véridiques et résolus. Porté par l'art, il me martelait avec la puissance monolithique du désespoir.
« Je maîtriserai la route d'art. » L'ancienne cité deviendra ma nouvelle capitale et tous mes artiseurs se plongeront dans la magie du fleuve.
Nouveau coup de taille en direction d'œil de nuit, dont l'épaule perdit des poils, mais encore une fois l'ouverture se referma trop rapidement pour mon attaque maladroite. J'avais l'impression de me trouver dans l'eau, jusqu'au cou, et de combattre un homme armé d'une épée légère comme un fétu de paille.
Bâtard stupide! Croyais-tu vraiment que je m'inquiétais d'une putain enceinte et d'un dragon capable de voler? C'était la carrière que je visais, la carrière que vous avez laissée sans protection. J'en ferai surgir 20, non, 100 dragons !»
Comment avions-nous pu nous montrer à ce point aveugles? Comment le véritable but de Royal avait-il pu nous échapper? Nous avions pensé aux habitants des six duchés, aux fermiers et aux pêcheurs qui avaient besoin du bras de leur roi pour les défendre, mais Royal, lui, ne songeait qu'à ce que l'art pouvait lui rapporter. Je savais ce qu'il allait dire avant même qu'il n'ouvre la bouche.
« À Terrilville et en Calcède, on ploiera le genou devant moi, et dans les îles d'outre-mer, mon nom fera trembler !»« D'autres arrivent, et ont l'air aussi !»
L'avertissement d'œil de nuit faillit me coûter la vie, car à l'instant où je levais les yeux, Guillot bondit sur moi. Je cédai rapidement du terrain pour éviter ses coups d'épée. Loin derrière lui, à l'entrée de la carrière, plus d'une dizaine d'hommes couraient vers nous, la lame au clair. Ils se déplaçaient à l'unisson, bien plus efficacement que toute troupe de soldats. Un clan. Comme ils approchaient, je sentis leur art, tels les bourrasques qui précèdent une tempête en mer. Guillot cessa tout à coup d'avancer, et mon loup se précipita en grondant vers les nouveaux venus, les dents découvertes.
« Œil de nuit, non, tu ne peux pas combattre 12 épées maniées par un seul esprit. »
Guillot abaissa son arme, puis la rengaina d'un air détaché.
« Ne vous fatiguez pas sur eux !»
cria-t-il au clan par-dessus son épaule. « Les archers les achèveront !» Un coup d'œil au sommet des immenses murailles de la carrière me révéla qu'il n'essayait pas de m'abuser. Des soldats en uniforme or et brun se mettaient en position. Tel était donc le but de ces troupes. Non pas défaire vérité, mais s'emparer de la carrière et la tenir. Une nouvelle vague d'humiliation et de désespoir déferla sur moi. Puis, je relevai mon arme et fonçai sur Guillot. Lui, au moins, je le tuerai. Une flèche ricocha sur la pierre que je venais de quitter, une autre se planta entre les pattes d'œil de nuit. Puis un cri monta du haut de la paroi ouest de la carrière. La femme au dragon passa juste au-dessus de moi, le fou sur son dos, un archer en or et brun se tortillant entre ses mâchoires. L'homme disparut soudain dans une bouffée de fumée ou de vapeur que le vent du dragon dispersa. La créature releva ses ailes, fit un second passage au ras de la muraille et saisit un autre archer, tandis qu'un troisième sautait dans le vide pour lui échapper. Il y eut une nouvelle bouffée de vapeur. Au fond de la carrière, nous restions tous figés, bouche bée. Guillot se ressaisit plus vite que moi et cria un ordre rageur où vibrait l'art. « Tirez sur le dragon ! Abattez-le !» Presque aussitôt, une volée de flèches monta dans le ciel en chantant. Certaines retombèrent avant même de toucher leur cible. Les autres, la créature les dévia d'un puissant battement d'ailes. Les flèches hésitèrent dans la brusque rafale de vent, puis churent dans la carrière en une pluie cliquetante. La femme au dragon s'inclina soudain et fondit droit sur Guillot. Il s'enfuit. Royal, je pense, l'abandonna le temps qu'il prit sa décision. Guillot se mit à courir à toutes jambes et pendant un moment, on eût pu croire qu'il poursuivait le loup qui était presque sur le clan. Mais quand les artiseurs s'aperçurent que Guillot se précipitait vers eux avec un dragon qui fendait l'air derrière lui, ils firent demi-tour et s'enfuirent à leur tour. Un sentiment de triomphe et de ravissement traversa le loup à la vue de ces 12 hommes armés qui se débandaient devant son attaque. Puis il se tapit tandis que la femme au dragon filait au ras de nos têtes. À son passage, je ne sentis pas seulement une bourrasque de vent, mais aussi un mascaret d'art étourdissant qui, en un instant, arracha de mon esprit toutes les pensées qui s'y trouvaient. J'eus la sensation que le monde avait été plongé brusquement dans des ténèbres absolues, puis qu'il était revenu en pleine lumière. Je trébuchais dans ma course, et, un bref moment, je ne pus me rappeler pourquoi je brandissais une épée, ni qui je pourchassais. Devant moi, Guillot hésita dans l'ombre de la créature, puis les membres du clan se mirent à tituber. Les griffes du dragon essayèrent en vain de saisir Guillot, qui dut son salut au bloc erratique de pierre noire. Son envergure interdisait à la créature de pénétrer dans leur labyrinthe, tandis que Guillot pouvait s'y faufiler. Elle poussa un cri de colère, un cri aigu et violent de faucon à qui sa proie échappe. Puis elle remonta dans le ciel et vira pour fondre à nouveau sur l'artiseur. Le souffle coupé par l'effroi, je la vis foncer droit dans une volée de flèches, mais elles rebondirent sur sa peau comme si les archers avaient visé les pierres de la carrière elle-même. Seul le fou se ramassa pour éviter de se faire toucher. La femme au dragon changea brusquement de cap pour passer au ras des archers, en saisit un et le calcina en un clin d'œil. Encore une fois, son ombre m'engloutit brièvement, et encore une fois, un instant de ma vie me fut arraché. Quand je rouvris les yeux, Guillot avait disparu. Puis je l'aperçus qui zigzaguait entre les tours de pierre comme un lièvre qui tente d'échapper à un faucon. Je ne vis nulle part le clan, mais tout à coup Œil de Nuit bondit hors de l'ombre d'un bloc pour courir à mes côtés.
« Ah, mon frère, le sans-sauteur chasse bien. Nous avons été avisés de le prendre dans notre meute. »
« Guillot est à moi, lui dis-je. Ton gibier est mon gibier, rétorqua-t-il d'un ton pénétré. C'est l'esprit de la meute, et si nous ne nous déployons pas pour le trouver, ce ne sera le gibier de personne. »
Il avait raison. Devant nous, j'entendais des cris et je distinguais de temps en temps l'éclair or et brun d'un soldat qui franchissait d'un bond l'espace entre deux blocs de pierre, mais la plupart avaient vite compris que le meilleur moyen de s'abriter du dragon était de rester collé aux énormes rochers.
Il cherche à atteindre le pilier. Si nous trouvons un point d'où nous le voyons, nous pourrons y attendre Guillot.
Cela semblait logique. Fuir par la colonne constituait la seule façon pour nos adversaires d'échapper quelque temps au dragon. Il m'arrivait encore d'entendre le cliquetis des flèches qui retombaient dans le sillage de la créature. Mais le gros des archers, qui encerclait la carrière, avait trouvé refuge dans la forêt avoisinante. Œil de Nuit et moi cessâmes de chercher Guillot, et nous rendîmes tout droit au pilier.
Je ne pus m'empêcher d'admirer la discipline de certains archers de Royal. À peine le loup et moi esquissions-nous plus de quelques pas hors d'un abri que nous entendions « Les voilà !» Et quelques instants plus tard, une pluie de flèches s'abattait sur nos traces. En parvenant au pilier, nous vîmes deux hommes du nouveau clan de Royal se précipiter à découvert, la main tendue pour disparaître dans la colonne noire à la seconde où ils la touchèrent. Ils avaient choisi la rune désignant le jardin de pierre, mais cela tenait peut-être simplement à ce qu'elle se trouvait de leur côté. Nous fîmes halte à l'angle d'un grand bloc qui nous protégeait des flèches.
« Est-il déjà passé ?»«
Peut-être. Attendons. » Plusieurs éternités s'écoulèrent, et je finis par me convaincre que Guillot nous avait échappé. Au-dessus de nous, l'ombre de la femme au dragon balayait les parois de la carrière. Les cris de ses victimes devenaient de moins en moins fréquents. Les archers se cachaient parmi les arbres. Je la regardais s'élever dans les airs, puis tournoyer loin à l'aplomb de la carrière. Elle se balançait de droite et de gauche, vert brillant dans le bleu du ciel. Je me demandais ce que le fou ressentait à voler ainsi. Au moins, il pouvait s'agripper à la portion humaine de sa monture. Tout à coup, la femme au dragon bascula, glissa sur le côté, puis replia ses ailes et tomba comme une pierre vers nous. Au même instant, Guillot sortit de sa cachette et se rua vers le pilier. Œil de Nuit et moi nous précipitâmes à sa poursuite, et nous fûmes bientôt sur ses talons. Je courais vite, mais le loup galopait plus vite que moi, et Guillot encore plus rapidement. Dans la seconde où ses doigts allaient effleurer le pilier, le loup fit un suprême effort et bondit. Il heurta Guillot dans le dos avec les pattes avant et le jeta la tête la première contre la colonne. Voyant notre ennemi s'y enfoncer, je lançai un avertissement à Œil de Nuit et l'attrapai par le pelage pour le tirer à moi. Il saisit un des mollets de Guillot à l'instant où il nous échappait, et au même moment, l'ombre du dragon passa sur nous. Je perdis pied et sombrai dans l'obscurité. Les légendes ne manquent pas où le héros combat de ténébreux ennemis dans les régions inférieures, et quelques-unes évoquent des champions qui s'avancent de leur plein gré dans l'inconnu pour sauver des amis ou une bien-aimée. Durant une fraction de seconde détachée du temps, j'eus le choix. Attraper Guillot et l'étrangler, ou prendre Œil de Nuit contre moi et le maintenir d'un seul tenant contre les forces qui déchiraient son esprit et son essence de loup. Mais la décision était évidente. Nous surgîmes du pilier dans une ombre fraîche, au milieu d'une prairie à l'herbe foulée. L'instant d'avant, tout n'était que noirceur et mouvement. L'instant d'après, nous respirions et avions retrouvé nos sensations et nos peurs. Je me relevais tant bien que mal et constatais avec stupéfaction que je tenais toujours l'épée de vérité. Œil de Nuit se redressa lourdement, fit deux pas vacillants et s'effondra.
« Malade ! Empoisonné ! Le monde tournoie !»
« Reste couché, ne bouge pas et respire. » Je promenais mon regard autour de nous, et mon regard me fut rendu, non seulement par Guillot, mais aussi par les membres du nouveau clan de Royal. La plupart avaient le souffle court, et l'un d'eux poussa un cri d'alarme en nous voyant. Sur un ordre de Guillot, plusieurs gardes beaugiens accoururent et se déployèrent pour nous entourer.
Il faut retraverser par le pilier. C'est notre seule chance. Je ne peux pas. Vas-y, toi.
La tête d'Œil de Nuit retomba, et il ferma les yeux.
Ce n'est pas l'esprit de la meute, lui dis-je d'un ton sévère.
Je levai l'épée de vérité. C'était donc ainsi que j'allais mourir. Heureusement que le fou ne me l'avait pas prédit, car je me serais sans doute tué d'abord.
Abattez-le, ordonna Guillot. « Il nous a fait perdre assez de temps. Éliminez-les, le loup et lui, puis trouvez-moi un archer capable de toucher un homme à dos de dragon. »
Toujours sous le contrôle de Royal, Guillaume tourna le dos et s'en alla en donnant d'autres instructions.
« Troisième clan, vous m'aviez affirmé qu'on ne pouvait pas éveiller un dragon achevé et l'obliger à servir. Or, je viens d'assister à cette opération exécutée par un bouffon dénué d'art. Découvrez comment il s'y est pris, et tout de suite !» Que le bâtard mesure son art à nos épées!
Je levai mon arme, et Œil de Nuit se remit sur pied. Sa nausée vint clapoter contre ma peur, alors que le cercle de soldats se refermait sur nous. Bah, si je devais mourir, je n'avais plus rien à craindre. Et peut-être pouvais-je mesurer mon art à leurs épées, en effet.
Je rejetais mes murailles avec dédain. L'art était un fleuve qui grondait autour de moi, un fleuve toujours en crue, auquel je puisais aussi aisément que j'eusse pris une inspiration. Une seconde inspiration chassa de mon corps fatigue et douleur. Je tendis avec force mon esprit vers mon loup qui s'ébroua, avec ses poils hérissés et ses crocs à nu. Il paraissait deux fois plus grand. Des yeux, je balayai les épées qui nous encerclaient, puis, sans plus attendre, nous nous ruâmes à leur rencontre. Tandis que les lames montaient pour parer la mienne, Œil de Nuit se faufila en dessous, puis se retourna pour entailler par derrière un homme à la jambe. Soudain, il ne fut plus que vitesse, dents et fourrure. Plutôt que de crocher dans les chairs, il se servait de son poids pour déséquilibrer les hommes et les renverser les uns sur les autres. Il tranchait les jarrets quand c'était possible et employait ses crocs à couper au lieu de mordre. Pour moi, la difficulté était de ne pas le toucher alors qu'il se jetait ça et là. Lui ne tentait jamais d'affronter les épées. Dès l'instant où un soldat se tournait vers lui, il se sauvait entre les jambes de ceux qui cherchaient à m'attaquer. Pour ma part, je maniais l'épée de vérité avec une grâce et une adresse que je ne m'étais jamais connue avec une telle arme. Les leçons et le travail de Hod s'exprimaient enfin en moi, et, si une telle chose était possible, je dirais que l'esprit de la maîtresse d'armes s'était incarné dans l'épée, et qu'il chantait à mon oreille. Je ne parvenais pas à franchir le cercle de soldats, mais il ne parvenait pas non plus à franchir ma garde pour m'infliger plus que des blessures superficielles. Dans ce premier stade du combat, nous combattîmes bien, mais les chances étaient contre nous. Je pouvais forcer certains des hommes à reculer devant mon épée, mais je devais aussitôt faire demi-tour pour repousser ceux qui s'étaient rapprochés de moi par derrière. Bref, je pouvais déplacer le cercle de la bataille, mais non m'en échapper. Néanmoins, je bénissais la longueur de l'arme de vérité qui me gardait en vie. D'autres soldats se dirigèrent vers nous, alertés par le vacarme du combat, et ils s'enfoncèrent en coin, entre Œil de Nuit et moi, obligeant le loup à s'écarter de moi. « Dégage-toi et fuis, fuis, vis, mon frère !» Pour toute réponse, il se sauva au grand galop, puis effectua un brusque demi-cercle et fonça dans la mêlée. Dans un vain effort pour l'arrêter, les soldats de Royal ne parvinrent qu'à se massacrer entre eux. Ils n'étaient pas habitués à combattre un adversaire moitié moins grand qu'un homme et qui se déplaçait deux fois plus vite. La plupart lui portèrent des coups qui ne firent que trancher la terre derrière lui. Un instant plus tard, il était sorti de leur groupe et avait disparu à nouveau dans la forêt luxuriante. Les soldats jetèrent des regards éperdus autour d'eux en se demandant d'où il allait surgir. Cependant, alors même que je ferraillais comme un forcené, je savais la futilité de nos efforts. Royal allait gagner. Parviendrais-je à tuer tous les hommes qui m'entouraient? Guillaume comprit, il gagnerait encore. Il avait déjà gagné en réalité. Ne m'en doutais-je pas depuis le début. Ne pressentais-je pas depuis toujours que Royal était destiné à gouverner? Je fis un pas en avant, tranchai un bras au niveau du coude et me servis de mon élan pour effectuer un arc de cercle avec mon épée dont la pointe lacéra le visage d'un autre soldat. Les deux hommes s'écroulèrent enchevêtrés, en laissant une petite brèche dans la muraille humaine qui m'enfermait. Je m'avançai dans cette ouverture, concentrai mon art et saisis la poigne insidieuse de Guillot sur mon esprit. Je sentis le plat d'une épée heurter mon épaule gauche et pivotai pour parer les coups de mon assaillant. Puis, j'ordonnai à mes réflexes de se débrouiller seul pendant que j'assurais ma prise sur Guillot. Je trouvai Royal entrelacé dans sa conscience, accroché à lui comme un ver foreur au cœur d'un cerf. Même s'il avait eu la possibilité d'y songer, Guillot n'aurait jamais pu se défaire de lui. Et apparemment, ce qui restait de lui était insuffisant pour former la moindre pensée personnelle. Ce n'était plus qu'un corps, un récipient de chair et de sang rempli d'art à la disposition exclusive de Royal. Dépouillé du clan qui lui fournissait son énergie, ce n'était plus l'arme redoutable qu'il avait été. C'était un instrument de moindre prix que Royal pouvait employer puis rejeter à son gré sans guère de remords. Je ne pouvais pas me défendre dans deux directions à la fois. Je conservais ma prise sur l'esprit de Guillot, chassais ses pensées du mien et m'efforçais de contrôler mon corps en même temps. L'instant suivant, je reçus deux entailles, l'une au mollet gauche, l'autre à l'avant-bras droit. Il m'était impossible de résister, je le savais. Je ne voyais Œil de Nuit nulle part, mais lui au moins avait une chance de s'en tirer.
Va-t'en, œil de nuit, tout est fini. Non, ça ne fait que commencer,
répliqua-t-il, et il jaillit de moi comme un éclair de chaleur. Plus loin, j'entendis Guillot hurler, quelque part, un loup de vif mettait son corps en charpie. Je sentis Royal qui tentait de démêler son esprit de celui de son âme damnée, et je resserrai ma prise sur eux. Fais face à ton destin, Royal!
Une pointe d'épée s'enfonça dans ma hanche. Je m'écartai brusquement et m'effondrai à demi sur un bloc de pierre. Je me redressai en laissant une empreinte ensanglantée sur la roche. C'était le dragon de Réalder. J'avais donc déplacé le combat sur une telle distance. Je me tournai dos à lui et face à mes adversaires.
Œil de nuit et Guillot se battaient toujours, mais à l'évidence, Royal avait tiré des conclusions des tortures qu'il avait infligées à ses prisonniers doués du vif. Il n'était plus aussi vulnérable aux attaques du loup qu'il l'aurait été autrefois. Incapable de le frapper à l'aide de son art, il pouvait néanmoins l'envelopper de couches de peur. Le cœur d'œil de nuit se mit soudain à battre la chamade à mes oreilles. Je m'ouvris encore une fois à l'art, refis mon énergie et entrepris une opération que je n'avais jamais tentée jusque-là. J'envoyais à œil de nuit de la force d'art sous forme de vif. Pour toi, mon frère. Je le sentis repousser Guillot et se dégager de lui un instant. Guillot en profita pour fuir notre emprise à tous les deux. Je m'apprêtais à lui donner la chasse quand derrière moi, je perçus un frémissement du vif chez le dragon de Réalder. Avec une odeur nauséabonde qui ne dura pas, l'empreinte sanglante de ma main sur sa peau disparut en fumée. La créature s'agita. Elle se réveillait et elle avait faim. Dans un craquement de branches et une tempête de feuilles soudain, un grand vent s'abattit sur le cœur de la forêt. La femme au dragon atterrit brusquement dans la petite clairière autour du pilier et, d'un coup de queue, balaya les hommes qui s'y trouvaient.
« Là !»
lui cria le fou, et aussitôt le dragon allongea le cou dans un mouvement foudroyant pour saisir un de mes assaillants entre ses redoutables mâchoires. L'homme s'évapora dans une bouffée de fumée. Et je sentis l'art de la créature s'enfler de la vie qu'elle venait de consommer. Derrière moi, une tête reptilienne se dressa tout à coup. L'espace d'un instant, dans son ombre immense, tout devint noir. Puis, elle se projeta avec la vivacité d'un serpent pour s'emparer de l'homme le plus proche. Il disparut, et je captai brièvement la puanteur de ce qu'il avait été. Le rugissement que poussa ensuite le dragon m'assourdit.
Mon frère, je suis vivant, œil de nuit. Moi aussi, mon frère.
Moi aussi, mon frère, et j'ai faim.
C'était la voix de vive d'un très grand carnivore. Il faisait partie du lignage, et sa puissance m'ébranla jusqu'à la moelle. Œil de nuit eut la présence d'esprit de répondre.
Mange, alors, grand frère, que notre gibier soit le tien, et bienvenue, c'est l'esprit de la meute.
Il ne fut pas nécessaire de répéter l'invitation. J'ignorais qui avait été Réalder, mais il avait donné un vigoureux appétit à son dragon. De gigantesques pattes griffues s'arrachèrent à la mousse et à la terre, une queue fouetta l'air en abattant un petit arbre au passage. J'eus à peine le temps de m'écarter à quatre pattes, avant que la créature plonge pour engloutir un deuxième Bogien.
Du sang et le vif, voilà ce qu'il faut. Du sang et le vif, nous savons comment éveiller les dragons. Du sang et le vif, nous avons les deux en abondance.
Le loup m'avait aussitôt compris. Au milieu du massacre, œil de nuit et moi nous lançâmes dans un jeu dément. C'était presque un concours pour savoir qui tirerait le plus de dragons de leur léthargie, et le loup l'emporta sans mal. Il se ruait vers une des statues, s'ébrouait pour l'asperger du sang qui couvrait son pelage, puis ordonnait
« Debout, frère, et rassasie-toi, nous t'avons apporté de la viande ».
Enfin, comme le sang fumait sur la créature et l'éveillait, il ajoutait
« Nous sommes de la même meute !»
Ce fut moi qui découvris le roi sagesse. C'était le dragon aux andouillés. Il émergea de son sommeil en s'écriant
« Serre, pour Castelserre, par elle et Eda, je meurs de faim !»
Il se trouve quantité de pirates rouges au large des côtes de Serre, monseigneur. Ils n'attendent que vos mâchoires, lui répondis-je. Malgré sa capacité à s'exprimer, il ne restait guère d'humanité en lui. La pierre et l'âme s'étaient fondues en dragons, et nous nous comprenions comme des carnivores entre eux.
Ils avaient jadis chassé en meute, et ils se le rappelaient clairement. La plupart des autres dragons n'avaient rien d'humain. Ils avaient été façonnés par des anciens, non par des hommes, et notre perception mutuelle s'arrêtait au fait que nous étions frères et que nous leur avions apporté de la viande. Ceux qui avaient été engendrés par des clans avaient de vagues souvenirs de serfs et de rois loin voyants. Cependant, ce n'était pas ces réminiscences qui les liaient à moi, mais ma promesse de leur donner à manger. Et je m'estimais heureux d'avoir réussi à imprimer cette idée à des esprits aussi étranges. Vint un moment où je ne trouvais plus de dragons endormis dans le sous-bois. Derrière moi, dans la zone où les soldats de Royal avaient campé, j'entendais les cris des hommes pourchassés et les rugissements des dragons qui se disputaient non leur chair, mais leur vie. Leurs assauts abattaient les arbres et leurs queues tranchaient les buissons comme la faux les épis. J'avais fait halte pour reprendre mon souffle, une main appuyée sur un genou, dans l'autre, l'épée de vérité. J'avais la gorge sèche et râpeuse, et la douleur commençait à percer l'insensibilité d'art que j'avais imposée à mon corps. Du sang dégouttait de mes doigts. Sans dragon auquel le donner, je l'essuyais sur mon pourpoint.
« Fitz !»
Je me retournais pour voir le fou courir vers moi. Il me prit dans ses bras et me serra fort contre lui.
« Tu es vivant. Grâce soit rendue à tous les dieux de partout. Elle vole comme le vent et elle savait où te trouver. Malgré la distance, elle a senti la bataille. »
Il s'interrompit pour reprendre sa respiration, puis poursuivit.
« Elle est insatiable, Fitz. Il faut que tu m'accompagnes. Les dragons sont à court de proie. Monte avec moi sur son dos et mène-les là où ils pourront se repaître. Sinon, je ne sais pas de quoi ils sont capables. »
Œil de Nuit nous rejoignit.
« C'est une grande meute affamée. Il va falloir beaucoup de gibier pour la nourrir. »
Veux-tu que nous les accompagnions à la chasse ? Œil de Nuit hésita.
Sur le dos de l'un d'eux, dans les airs ?
C'est ainsi qu'ils chassent.
Pas les loups, mais si tu dois me laisser ici, je comprendrai.
Je ne t'abandonnerai pas, mon frère. Je ne t'abandonnerai pas. Le fou avait dû percevoir en partie notre échange, car il secoua la tête avant même que j'ouvre la bouche.
Fou, c'est toi qui dois les guider sur la femme au dragon.
« Mène-les jusqu'en serre, auprès de vérité. Ils t'écouteront car tu es de la même meute que nous. Cela, ils le comprennent. »«
Fitz, c'est impossible. Je ne suis pas fait pour ces massacres. Je ne suis pas venu voir disparaître des vies. Je ne l'ai jamais vu dans mes rêves. Je n'en ai jamais entendu parler dans un manuscrit. J'ai peur de conduire le temps dans une mauvaise direction. »«
Non. Il en est ainsi qu'il doit être, je le sens. » Je suis le catalyseur, et je suis là pour tout changer. Les prophètes deviennent guerriers, les dragons chassent comme les loups. J'avais du mal à reconnaître ma propre voix. J'ignorais d'où venaient les mots que je prononçais. Je croisais le regard abasourdi du fou. Il en est ainsi qu'il doit être. Va.
Fitz, je...
Le dragon à la cavalière s'approcha lourdement de nous. Au sol, il avait perdu toute sa grâce. Pourtant, il se déplaçait avec majesté, tel un énorme ours ou grand taureau. Le vert de ses écailles brillait comme des émeraudes sombres dans le soleil. La femme qu'il portait était d'une beauté à couper le souffle, malgré ses yeux impassibles. Le dragon leva la tête, ouvrit la gueule et sortit la langue pour goûter l'air.
« Encore ?»«
Fais vite, » dis-je au fou. Il m'étreignit presque convulsivement, puis, à mon grand désarroi, me baisa la bouche, et enfin s'enfuit en courant vers la femme au dragon. Elle se pencha et lui tendit la main pour le hisser derrière elle. Pas un instant elle ne changea d'expression. Elle faisait entièrement partie du dragon.
« À moi !»
cria le fou aux autres créatures qui s'assemblaient autour de nous. Il me lança un dernier regard accompagné d'un sourire ironique.
« Suivez le sans-odeur !»
ordonna Œil de Nuit, avant que j'eusse le temps de réfléchir.
« C'est un puissant chasseur, et il vous mènera en terrain giboyeux. Écoutez-le, car il est de notre meute. »
La femme au dragon bondit en l'air et déploya ses ailes qui, à battements vigoureux, l'emportèrent dans le ciel, le fou accroché à la cavalière. Il leva la main en signe d'adieu
puis la ramena précipitamment pour s'agripper à la taille de la femme. Ce fut la dernière fois que je le vis. Les autres dragons suivirent le premier à grand renfort de cris, qui m'évoquèrent des matins sur une piste. Hormis leur stridence, qui rappelait plutôt des rapaces. Même le sanglier ailé s'éleva, d'un vol aussi chaotique que son saut de départ. Le battement de leurs ailes était si fort que je me bouchais les oreilles et qu'œil de nuit se tapit au sol près de moi. Les arbres se balancèrent sous leur passage et des branches en furent, tant mortes que fraîches. Pendant quelque temps, le ciel fut empli de créatures étincelantes, comme des joyaux verts, rouges, bleus et jaunes. Chaque fois que l'ombre de l'une d'elles passait au-dessus de moi, les ténèbres s'abattaient sur moi un instant. Mais c'est les yeux bien ouverts et attentifs que je regardais le dragon de Réalder s'envoler, le dernier, pour suivre la grande meute dans le ciel. Peu après, les frondaisons les cachèrent à ma vue, et peu à peu, leurs cris s'éteignirent. « Vos dragons arrivent, vérité, » dis-je à l'homme que j'avais naguère connu. « Les anciens se sont réveillés pour défendre Serre, comme vous l'aviez prédit. »